France Musique. France Musique, les grands entretiens, Thomas Verkracht.
Je m'appelle Philippe Hersant, je suis né à Rome le 21 juin 1948 et je suis compositeur.
Philippe Hersant, vous avez été compositeur en résidence de plusieurs orchestres, je pense par exemple à l'Orchestre National de Lyon. Comment ça s'est passé ces résidences et qu'est-ce qu'elles ont pu peut-être vous apporter?
J'ai beaucoup aimé ces résidences, j'en ai fait plusieurs. L'Orchestre des Pays de la Loire, l'Orchestre de Bretagne, je trouve qu'elles ont un grand avantage, c'est d'abord de tisser vraiment des liens avec les musiciens de l'orchestre, ce qui n'est pas le cas lorsque vous avez une œuvre qui est jouée, vous arrivez à une répétition, un général concert, mais vous n'avez vu pratiquement personne, vous n'avez pu discuter vraiment avec personne dans l'orchestre parce que c'est trop rapide, c'est trop... Bon, là, ça s'étale dans le temps, en général, c'est 2 ans. Donc, vous avez le temps de tisser des liens avec certains musiciens, notamment dans les petits concerts de musique de chambre qui font partie des résidences en général. Et une part aussi importante, c'est le contact avec le public. C'est-à-dire que le public finit par s'habituer un peu à vous. C'est pas forcément évident. L'abonné du concert des orchestres classiques, comme vous devez le savoir, parfois pas mal de réticence avec la musique contemporaine. Le fait de voir, d'entendre plusieurs œuvres, fait qu'ils se familiarisent au bout d'un moment et peut-être même, qui sait, ils prennent goût.
Si je reviens juste sur votre résidence à l'Orchestre National de Lyon, c'est dans le cadre de cette résidence que vous avez écrit une œuvre pour piano et orchestre, Streams, qui est peut-être une espèce d'exemple particulier de méandre, de citation, de dédale un peu labyrinthique. Qu'est-ce que vous pourriez dire d'abord de cette œuvre et puis justement de cette manière de mêler comme ça toutes les musiques ensemble et qu'elles ne fassent plus qu'une à la fin?
Oui, c'est une œuvre sombre, peut-être une des plus sombres que j'ai écrites. Elle est un peu influencée par la lecture du Paradis perdu de Milton et de la description des fleuves infernaux. Les streams sont les courants, les fleuves. Et il y a 5 mouvements liés chacun à des fleuves que décrit Milton dans l'enfer. C'est une pièce à laquelle je tiens et qui me fait un peu peur en même temps. Je sais pas. Je pense qu'il y a une influence greffienne aussi. Peu de temps avant, j'avais revu Olivier Greff. Et il y a quelque chose il écrivait une musique très sombre quand même, Olivier. Et je pense qu'il y a un peu de ça qui passe dans cette œuvre, et y compris des références à des musiques qu'on aimait tous les deux, et des références à Purcell, des références à une fantaisie de Purcell dont Greff m'avait dit que c'était les musiques qu'il emporterait sur une île déserte. Et puis c'est vrai que c'est la pièce dans laquelle j'ai le plus donné cours à ma fascination pour les labyrinthes. Donc il y a des citations du labyrinthe de Locatelli, des citations du petit labyrinthe harmonique de Bach. C'est une œuvre plus formelle, entre guillemets, parce qu'elle est vraiment construite de façon, avec un plan préétabli, ce que je fais en général pas du tout. Je me laisse aller pas au fil de la plume, mais enfin je laisse courir un peu l'inspiration et l'œuvre me mène là où elle veut. C'est effectivement une œuvre qui est très référencée, dans laquelle s'imbriquent des références à toutes sortes de choses, références littéraires, références musicales. Oui, d'une certaine façon, elle résume un peu la décennie des années 90, je dirais. Ce sont plus trop mes préoccupations maintenant. Je pense pas que je réécrirais cette pièce maintenant, mais voilà, ce mélange de références d'une façon assez expressionniste, assez sombre, assez... Disons que la décennie s'est un peu ouverte avec le Château des Carpates, qui est aussi une œuvre sombre, une œuvre obsessionnelle. J'ai essayé d'alléger un peu par la suite.
Philippe Hersant, vous avez parlé du Château des Carpates, hein, c'est votre premier opéra.
C'est le deuxième, parce que j'ai écrit un petit opéra de chambre qui s'appelle « Les visites espacées », qui n'a jamais été enregistré, mais qui a été une œuvre importante pour moi, parce qu'elle a été créée au Festival d'Avignon en 84, je crois, au retour de la Villa Médicis. Quand vous écrivez un opéra, vous avez une visibilité, disons, bien plus grande que quand vous écrivez un quatuor à cordes. Donc, beaucoup de gens ont vu ce petit opéra à Avignon, j'ai eu pas mal de presse, je pense que ça a été pour ça un jalon assez important. C'est pas une œuvre que je renie, c'est pas non plus une œuvre que j'ai envie qu'on redonne, mais c'est un jalon quand même important dans ma carrière de compositeur. Je suis assez attiré par des formes moins définies. Enfin, pour moi, une des œuvres à laquelle je tiens le plus, c'est une œuvre qui s'appelle Tristia, qui est basée sur ce que j'ai écrit pour Clairvaux, que j'ai beaucoup prolongé, et que Currensis a dirigé plusieurs fois ces derniers temps, et qui est une pièce dont il a fait quelque chose qui n'est pas un opéra, qui n'est pas un oratorio, qui n'est pas une cantate, enfin une sorte de genre un peu indéfini, et dans lequel je me retrouve complètement. Parce que le chœur n'est pas du tout statique, il y a quelques instruments, mais il y a des pièces pour une seule voix et des pièces pour le chœur entier, et il a inventé une sorte de mise en espace, qui fait qu'on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. D'ailleurs, j'ai appelé ça opéra choral, bien qu'il n'y ait pas vraiment d'intrigue. C'est quelque chose qui finalement me séduit, vers lequel j'aurais envie d'aller, peut-être plus que l'opéra traditionnel.
Un opéra qui ne bouge pas.
Non, mais il s'y passe beaucoup de choses. Il y a quand même beaucoup de personnages. Il y a quand même un voyage. Il n'y a pas une narration. La seule œuvre qui pourrait, à mon avis, s'en rapprocher un petit peu, c'est un opéra que j'adore, qui est de La Maison des Morts de Janáček, qui est aussi un opéra sur l'enfermement, et où il n'y a pas réellement d'intrigue non plus. En fait, c'est une galerie de personnages qui chacun raconte sa vie, ses crimes. Et Tristia pourrait un peu se rapprocher de ça. Et je dois écrire une autre œuvre pour Currensis. Je ne sais pas encore quelle forme elle prendra, mais probablement proche de ça. C'est-à-dire mi-chemin entre l'oratorio, on ne sait pas trop. Puis, les catégories, c'est... si on peut y échapper, c'est pas plus mal.
Est-ce que vous écrivez une musique narrative ?
Oui, je pense, oui. Très narrative, sans... qu'on puisse mettre vraiment de noms, de mots dessus, mais ce que me disent beaucoup les interprètes, beaucoup d'interprètes s'inventent des histoires en jouant mes pièces. Et quelquefois, me racontent leurs histoires pour savoir si ça correspond à ce que je pensais. Je dis non, absolument pas. Mais
qu'est-ce que ça ferait, par exemple, une histoire sur une de vos musiques?
Par exemple, quand j'ai écrit une pièce qui s'appelle « Le chemin de Jérusalem » pour viol de gambe. Et lorsque Nima Ben David l'a joué, elle a inventé tout un scénario. Elle m'a dit voilà ce que je vois. Enfin, elle entendait tout, l'appel du muezzin, le désert, le siège de Jérusalem. Et je dis pas du tout le chemin de Jérusalem, c'est le nom qu'on donnait aux labyrinthes dans les cathédrales autrefois, les labyrinthes au sol. J'ai pas du tout pensé au désert et à la Palestine et à Jérusalem. Mais elle me dit mais moi ça m'aide pour la jouer. Mais je lui dis mais oui je comprends très bien. Fabrique-toi ton histoire, c'est parfait. C'est pas la mienne, mais en même temps il y a toujours un peu un voyage dans mes pièces. Et alors je mets pas de mots définis dessus. C'est pour ça que j'écris de la musique, d'ailleurs, comme ça, il n'y a pas besoin de mots.
Donc c'est une narration abstraite à chaque fois.
C'est une narration abstraite, mais un voyage, oui, quelque chose, un parcours, en tout cas, c'est sûr.
France Musique, les grands entretiens de Philippe Hersant.
Alors à propos de narration plus terre-à-terre, à la fin des années 1980, vous vous intéressez de très près à un roman de Jules Verne, Le Château des Carpates, et vous en faites du coup cet opéra, cette grande forme. Comment vous rencontrez d'abord ce texte de Jules Verne et comment vous êtes mis à l'aborder, parce que c'est un texte un peu particulier, hein.
C'est assez à part dans la production de Jules Verne, parce que ça ressemble pas à ce qu'elle écrit habituellement. D'abord, c'est plus pessimiste, c'est plus sombre. Il y a toujours quelque chose d'un peu joyeux, la joie de la découverte chez Jules Verne. Là, il inscrit cette histoire dans une sorte de roman gothique, un peu fantastique à la Hoffmann, ce qui n'est pas son genre habituellement. Parce que Jules Verne aimait nous faire découvrir les nouvelles inventions, mais toujours de façon enthousiaste et joyeuse. Donc là, il y a quelque chose d'un peu morbide dans ce roman qui raconte l'histoire de l'invention du magnétoscope ou de l'enregistrement du film, de la télévision. Et en fait, je me suis souvenu de ce roman que j'avais lu quand j'étais petit, sans d'ailleurs avoir été particulièrement... c'est pas du tout mon roman préféré de Jules Verne. J'y ai repensé en voyant une publicité, en fait, qui représentait deux hommes en chapeau de forme en train de regarder la télé. Et sur l'image, on voyait une dame chanter. Et je me dis, bah oui, évidemment, c'est une référence au Château des Carpates. Et en y réfléchissant, je me suis dit, mais ça ferait un bon sujet d'opéra. En tout cas, les 50 dernières pages du livre, parce c'est un roman qui commence comme un roman d'aventure. C'est assez long à se mettre en route, quand même. Et c'est ça qui m'a donné l'idée, en fait. Et c'était une façon, comment dire, un peu de mettre en œuvre mon goût pour l'opéra traditionnel. Et j'étais, d'une certaine façon, obligé de mettre un pastiche d'opéra dans cet opéra. Ben, parce que ça raconte l'histoire d'une femme qui chante un air de bel canto sur la scène du San Carlo de Naples et qui meurt à la fin de la représentation, qu'on va réentendre chanter à la fin, mais cette fois enregistrée, filmée. Disons que le sujet m'obligeait un petit peu à la référence.
Pour le coup, il y a un vrai pastiche dans le Château des Carpates. C'est peut-être une des rares œuvres.
C'est assez proche d'un pastiche, mais quand on regarde ce qui se passe en dessous, il y a des fausses basses, ça serait plutôt de l'ordre de ce que fait Stravinsky, par exemple, dans Pulcinella. C'est-à-dire qu'on reconnaît les thèmes de Pergolèse, mais c'est distordu quand même. Enfin, ce que Diaghilev avait dit à Stravinsky, t'as mis des moustaches à la Joconde. Bon, parce que... Il y a un petit peu de ça, c'est du faux Monteverdi, du faux Puccini. Mais oui, c'est probablement là qu'il y a le pastiche le plus évident.
À propos de narration, ça m'évoque votre goût pour le cinéma. Donc, vous avez une passion pour Kurosawa, pour Fellini. Est-ce qu'il y a d'autres cinéastes qui vous ont marqué ?
Antonioni, Buñuel. J'aurais beaucoup voulu faire un opéra sur l'ange exterminateur de Buñuel. Malheureusement, Thomas Hadès l'a fait et très bien.
Pris, ouais.
Donc voilà, je pense qu'il l'a fait mieux que je ne l'aurais fait. Donc, je pense que ça correspondait mieux à son style et je suis ravi qu'il l'ait fait.
Qu'est-ce que vous trouvez dans le cinéma de Buñuel qui aurait pu vous séduire ?
Peut-être ce goût du bizarre, cet humour, cette distance. Il y a beaucoup de distance chez Buñuel. Une façon de dire des choses terribles, façon légère. Il n'appuie pas, il est pas démonstratif. Il est le goût de l'absurde, entre autres.
Donc votre éducation au cinéma, elle s'est faite vers quel âge ? À l'adolescence ou plus tard ?
Premier choc, c'est 8 et demi de Fellini que j'ai vu quand j'étais à Florence. À 15 ans, j'ai absolument rien compris. Et je l'ai vu en italien, non sous-titré. En plus, c'était l'époque du cinéma permanent. Donc, je suis arrivé au milieu du film, qui est déjà pas un film facile à comprendre pour un gosse de 15 ans. Je n'ai rien, absolument rien compris, mais les images m'ont absolument fasciné. Et je les ai trouvées tellement étranges, je pensais pas qu'on pouvait imaginer des images aussi extraordinaires. Et puis ce télescopage des temps aussi, c'est-à-dire 8,5, c'est on passe constamment de souvenirs d'enfance à l'actualité, à ce qui est arrivé, ce qui aurait pu arriver, et tout ça avec une liberté totale, sans prévenir, sans d'ailleurs des tas de gens n'ont pas compris du tout ce film à cause de ça, parce qu'il chamboule tout. Et rétrospectivement, je comprends ce qui m'a vraiment fasciné dans ce film. Alors que je n'ai compris que les images et la musique de Nino Rota. C'est tout le reste, les dialogues, de quoi il était question, mais passé complètement. Donc on peut finalement comprendre et aimer et même être passionné par quelque chose sans le comprendre intellectuellement de façon globale, quoi.
Et du coup, Philippe Hersant, est-ce que vous avez écrit une œuvre inspirée du coup par Fellini ?
Oui. Mon deuxième concerto violoncelle, qui est inspiré par un scénario que Fellini n'a jamais tourné. Il se serait appelé Le Voyage de Mastorna, et qui est l'histoire d'un violoncelliste qui meurt dans un accident d'avion, et donc c'est le voyage de ce violoncelliste dans la mort. C'est un côté enfer de Dante. C'est un scénario absolument extraordinaire qu'il a toujours eu peur de tourner par superstition sans doute, peut-être aussi parce que c'était irréalisable, mais mon concerto pour violoncelle est inspiré de ça.
Plus que d'être un fan de cinéma et un cinéphile averti, vous avez écrit quelques musiques de films. Alors c'est, j'allais dire, un épiphénomène dans votre musique, mais ça existe quand même. Qu'est-ce que vous avez pu retirer de ces expériences de musique de films qui sont très particulières ? Je pense aux musiques de films de Nicolas Philibert. C'est pas une grande BO de films hollywoodiens. C'est là aussi des cas un peu uniques et un peu à part.
Là, c'est un peu le hasard des rencontres aussi. Moi, j'aurais beaucoup aimé écrire pour le cinéma, pas en faire... mon exercice quotidien, mais bon, c'est plus difficile maintenant parce que le marché est très gardé. Et on peut écrire de musique de film que pour des films indépendants maintenant. Bon, j'ai rencontré Nicolas Philibert à la fin des années 80, et donc j'ai écrit plusieurs musiques pour lui. Alors c'est un peu particulier parce que c'est un documentariste, il ne fait pas du tout de films de fiction. C'est quelqu'un qui est très sensible à la musique, qui lui-même a été violoniste à un moment, enfin a travaillé le violon. Mais j'ai surtout trouvé beaucoup de correspondances entre le travail du monteur qu'il était, parce qu'il est un documentariste et un as du montage, disons, et mon propre métier, parce que j'ai l'impression de faire du montage aussi. Quand je voyais travailler sur ces images, d'en enlever deux, de rajouter, de retirer, de retrancher, j'avais l'impression d'être comme quand j'ai écrit Éphémère, où effectivement j'ai je ne sais combien de versions de chaque morceau, un peu plus courte, un peu plus longue, un peu plus... de chercher les proportions, de chercher ce qui semble juste. Quelle est la durée juste d'un morceau ou quelle est la durée juste d'une scène? C'est ce que pose évidemment Philibert. Et c'est d'autant plus important qu'il fait des documentaires.
Vous avez dit tout à l'heure que l'œuvre que vous trouvez une des plus réussies de votre catalogue, c'était la toute dernière des Instants Limites. Est-ce qu'il y en aurait eu une ou deux autres auxquelles vous êtes peut-être plus attaché ou que vous considérez comme les plus réussies, mais en tout cas plus
attaché? Donc les trois œuvres auxquelles je suis plus attaché, c'est Tristia, donc qui est dans le prolongement d'Instants Limites, mais qui est plus développée, que je mettrais vraiment en numéro un. Les Vêpres et sans doute mon trio.
Pourquoi le trio?
Je sais pas, j'y suis très attaché.
C'est aussi indescriptible.
Parce que c'est peut-être là que ce que je veux faire avec le télescopage des périodes, des temps, du baroque, du contemporain, du, enfin, tout ce qui me passe par la tête, c'est peut-être là que j'ai trouvé une forme, la forme la plus évidente. Je sais pas si ça aboutit ou si, bon, je lui trouve des défauts, il y a des choses. Mais, voilà, ça s'approche un petit peu de ce que j'ai envie de faire en musique.
Un extrait minéral du trio pour violon, violoncelle et piano de Philippe Hersan, des variations sur la sonnerie de Sainte-Geneviève-du-Mont de Marin Marais, Pierre Colombet au violon, Raphaël Merlin au violoncelle et Johan Fargeau au piano. Prise de son Valérie Lavalard, mixage Philippe Thibault, une réalisation de Christine Amado et une émission réécoutable et podcastable sur le site francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.